Bon, inutile de vous dire que c'est toujours une joie de venir parmi vous. Ah, on a tellement de souvenirs qui sont liés à ce lieu. Alors, j'aimerais commencer, la première dia peut être projetée. Désolé pour les végétariens ou les véganes, mais ouais, c'est bientôt le printemps, les grillades. Non, non. Le titre de ce message, c'est de la lolette au beefsteak. Vous allez comprendre pourquoi. On peut lire les deux passages qui sont là, dans 2 Pierre 3,18. « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Donc, grandissez. Hébreux, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Voilà, donc, comme je l'ai dit, ce cours va nous aider les uns les autres à nous baser sur ces fondements bibliques et puis à faire ressortir de ces vérités des expériences humaines. J'ai vécu quelque chose en lisant ce passage. J'ai des doutes sur ce passage. Je ne comprends pas ce passage. Voilà ce que j'ai découvert. Et tout d'un coup, ça devient vraiment un volcan, hein, comme à Naples. Hein. Ça boue là et ça fait du bien. Donc, j'aimerais vraiment vous exhorter, vous encourager. D'ailleurs, les apôtres, et Paul en particulier, ne cessaient, en écrivant les lettres aux églises, d'encourager les chrétiens à la croissance et à grandir dans la grâce, parce que sans la grâce, on n'y arrive pas, et la connaissance. On peut pas se baser uniquement sur la grâce. La grâce doit faire une œuvre en nous qui nous amène à chercher cette parole de Dieu, cette pensée de Dieu, cette vision de Dieu, cette volonté de Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 5, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Qui a la foi aujourd'hui parmi nous? Il y en a quelques-uns, ça fait plaisir. Hein? « Mais vous devez ajouter, nous devons ajouter à notre foi, qu'est-ce que nous devons ajouter ? La vertu, à la vertu, la connaissance, la gnose, gnosis hein, en grec. La connaissance dans un sens général. 2 Pierre 3,18, « Mais grandissez, croissez », c'est le mot grec « auxano », dit « croître, augmenter, s'accroître, devenir plus grand, pousser, s'élever ». Vous voyez la richesse aussi de ces termes quand on les découvre, donc dans la grâce et dans la connaissance. Alors, ce matin, on va s'arrêter et trouver une espèce d'analogie en fait entre un bébé et la vie chrétienne. Et vous voyez qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir. Et j'espère vous donner de bonnes raisons de venir à ces rencontres. On met le dia numéro 2. Voilà. Ça, c'est pas mamie ou bien ? Ah non, c'est pas mamie. L'arrivée d'un bébé est quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire dans la vie d'un couple. Et je pense que chaque parent a vécu avec intensité des émotions nouvelles qu'il n'avait peut-être jamais vécues avant la venue de ce bébé. On l'attend pendant 9 mois, on sait qu'il va venir, et on se sent tellement démuni parfois, et puis le voilà qui arrive. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est aussi un bouleversement hein, pour les couples. Moi, je me souviens, quand on a eu notre premier bébé, moi, je me souviens, on habitait à la Mido, juste à côté, là, dans la belle maison, et puis on va au lit, je pose ma main sur le ventre d'Yvette, qui était assez gros, et du coup, ça fait « pouf !» Je dis « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Elle perdait les os. Et c'était le branle-bas de combat. Il a fallu monter en 4e vitesse à l'hôpital, parce que, ben voilà, bébé était en train de venir. Et c'était des émotions incroyables. Donc, à partir de ce moment-là, tout est focalisé sur bébé. Tout est focalisé, toute notre attention. On essaye de discerner, puis de répondre à toutes ces mimiques, à ses besoins, à ses appels, à ses cris. Et on peut mettre la prochaine dia. C'est rigolo parce que on découvre en fait le visage, la personne que ce bébé est, et puis on essaye de se mettre à son niveau, ce qui n'est pas toujours évident, hein, n'est-ce pas? Et on voit que ça commence de pleurer, de crier, y a des sourires, il y a des gazouillis, il y a toutes sortes d'expressions comme ça, puis on essaye de comprendre, de discerner qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce petit être. Et on voit que le couple est prêt à tout pour se mettre au niveau du bébé. On descend à son niveau, comme par exemple celui du langage nouveau, n'est-ce pas? Entre 4 et 9 mois, le bébé prononce des suites de syllabes. C'est ba 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 ba, ta 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 ta, et puis me. Et puis les parents, ils essayent de se mettre à ce niveau. Ils disent goudou goudou goudou, mais oui mon petit. C'est arre arre, guili guili, gouzi gouzi. C'est tout un langage nouveau hein, qu'on découvre. On se dit waouh, quand même. Hein. En peu de temps, on apprend vite le langage de bébé. Et puis ce qui est incroyable, c'est que le couple va investir un potentiel mais énorme pour que ce bébé puisse se développer dans les meilleures conditions, qu'il puisse grandir, qu'il puisse s'épanouir. On ne se rend pas toujours compte. Tout ce qu'on investit pour ça, c'est inné en nous. Hein. On a envie vraiment que ce bébé puisse vivre dans les meilleures conditions, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'affection, de la stimulation, les soins de base, les vêtements. Puis aussi à faire face aux crises, hein. C'est pas évident, aux maladies peut-être, des nuits d'insomnie. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme analogie entre la vie d'un bébé et puis la vie chrétienne? Vous connaissez certainement ce fameux passage que nous trouvons dans l'évangile de Jean, où Jésus rencontre un maître de la loi qui s'appelle Nicodème. Moi, j'aime beaucoup cette rencontre parce qu'elle est improbable, elle est impensable. Jamais on imagine, ou Nicodème imaginait peut-être qu'il allait se retrouver à un moment donné devant Jésus et peut-être qu'en lui-même, il se disait, bon, moi, je vais lui en mettre plein la vue. Hein. Je suis quand même un maître de la loi, je suis un pharisien, je suis quelqu'un qui connaît l'Écriture, j'enseigne hein, le peuple d'Israël, etc. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, le diacre, il vint de nuit trouver Jésus. Et Jésus, à son grand étonnement, va lui parler de nouvelle naissance. Alors là, il ne s'y attendait pas vraiment. Hein. Jésus lui dit, écoute Nicodème, si tu veux entrer voir le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Et là, Nicodème, il est un peu perdu. Il est perplexe, il ne comprend pas, c'est un peu du charabia pour lui. Naître de nouveau, je n'ai jamais entendu cette parole, nulle part. Et lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Et là, on voit toutes les limites humaines, hein, les limites de l'intelligence humaine. Tout d'un coup, on est déconnecté. Tout d'un coup, on n'y comprend plus rien. Et moi, je me souviens, c'était encore à la rue de la Gare, quand j'ai commencé d'aller à l'église de réveil. Bon, j'arrivais là, il y avait des beaux chants, il y avait une bonne atmosphère, c'était familial. Et puis j'entendais des mots, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit? Je ne comprenais pas le sens de ces mots. Et j'étais perplexe, parce que je n'avais jamais entendu ces mots-là. Donc, pour Nicodème, c'est quelque chose qui le déboussole face aux paroles de Jésus. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, c'est vrai que Jésus, à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, même si Nicodème ne comprend pas tout, il répond aux préoccupations profondes de Nicodème. Pour Jésus, il ne s'agit pas ou plus de faire, il ne s'agit pas de continuer dans ce qu'il est, en fait, ce Nicodème. Pourtant, voilà, au niveau du peuple d'Israël, c'était quand même un peu une sommité intellectuelle, spirituelle. Mais c'est d'être. Et avant d'être, il faut naître. Il ne s'agit plus de faire, mais il s'agit d'être. Et avant d'être, il faut naître. Et naître par le biais d'un moyen autre que celui de la chair et du sang. Et c'est ce que Jésus va expliquer aussi. Il s'agit de naître d'en haut, de naître de Dieu. En Jean 1, 12, Jésus explicite cette nouvelle réalité. Et là aussi, moi, j'étais complètement décontenancé quand j'entendais parler de nouvelle naissance. « Ah, tu dois mourir à toi-même. » Mais j'étais complètement perdu. Hein? Mais c'est des mots qui commençaient de faire partie de mon vocabulaire. Et j'essayais de les comprendre et puis ensuite de les vivre. Parce que c'est une chose de comprendre un mot, une phrase, un verset, mais c'est tout autre chose que d'y entrer ou de laisser ce passage entrer dans nos vies pour qu'il puisse nous entraîner dans quelque chose de nouveau. Il faut naître de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, c'est intéressant. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, ça nous place tout de suite sur un plan complètement différent du plan humain. Alors on voit que notre première naissance d'ordre humaine, puisqu'on est le produit quand même d'une relation entre notre père et notre mère, quoi qu'aujourd'hui, voilà, hein, voilà. Le problème majeur de cette naissance-là, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle est, je dirais, incomplète. Non pas que Dieu n'ait pas achevé parfaitement son œuvre en créant le premier être humain. Dans Genèse 1, 31, il dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Donc, le problème, il n'est pas là. Dieu a fait les choses d'une manière très bonne. Mais comme nous le révèle la parole de Dieu, l'Écriture, il s'est produit un événement tragique qui aura des conséquences et des répercussions sur toute la race humaine. En désobéissant volontairement à la parole de Dieu, ils vont provoquer une rupture de relation entre Dieu et eux. Adam et Ève ont péché. C'est-à-dire que c'est le mot amartia en grec qui dit « j'avais une cible devant moi, je devais tirer au centre de la cible, ou en tout cas dans la cible, et voilà que je la loupe, je passe à côté ». Et tous ont péché, nous dit l'Écriture. Tous ont péché et sont privés de sa gloire. C'est-à-dire que nous avons tous essayé de tirer d'une manière ou d'une autre dans notre vie et à chaque fois, on passait à côté de la cible de Dieu, de la présence de Dieu. Alors cette rupture, c'est avant tout une rupture spirituelle, hein, avec des conséquences sur le reste de notre être, notre corps, notre âme. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, Paul expose en trois mots ce que devrait être un être humain selon le dessein de Dieu, le dessein initial. Qu'est-ce que Dieu avait fait au départ? Il dit que votre être tout entier, et c'est quoi un être tout entier? Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Esprit. On peut donner la prochaine. Alors, c'est vrai que du côté du corps, l'homme se débrouille pas mal. Hein, faut reconnaître quand même. Vous connaissez la devise des Jeux Olympiques, hein, Situs, altius, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Alors, il est capable de courir le 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes, de sauter à plus de 6 mètres 20 à la perche, de sauter en longueur près de 9 mètres. Il est capable de soulever, alors ça j'ai découvert, c'est incroyable, vous savez quel est le poids de celui qui a battu le record du monde? 500 kilos. Et j'ai vu des images, le gars il vous soulève un truc de 500 kilos. Hein, donc physiquement on peut dire que bon, l'homme et la femme en général sont bon, ça va. Hein, mais du côté de l'âme, donc, on parle là des activités psychiques, des dispositions intellectuelles, morales, affectives, tout ça. C'est pas mal aussi. Il faut reconnaître que l'homme est quand même assez inventif, il est créatif, Il est intelligent, il est capable d'accomplir des merveilles. Des fois, on voit des choses qui ont été faites ou construites par des personnes. C'est juste incroyable. Sur le plan scientifique, par exemple, ou technologique, en architecture, en ingénierie, en médecine, et j'en passe. C'est vrai que niveau corps et âme, on peut dire que l'homme se débrouille pas mal. Hein. Est-ce que vous connaissez votre QI ? Vous avez déjà fait un test pour savoir, non ? Non, il vaut mieux pas. Hein. Et moi, là, j'étais aussi étonné parce que je me disais, bon, ben, un Albert Einstein, ça doit être à peu près une sommité dans ce monde. Hein. C'est quand même un gars qui a découvert des trucs. Je me suis dit, bon. Alors, Albert Einstein, il est estimé autour de 160, ce qui est pas mal. Hein. Moi, je suis à 158, c'est bon. Mais j'ai découvert qu'un mathématicien australien du nom de Terence Tao, âgé de 42 ans, possédait un QI de 230. Alors, je ne sais pas s'il est plus heureux que les autres, mais quand même, c'est impressionnant de se dire, ben, le gars, je ne sais pas. Bon. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que la rupture consommée avec Dieu nous prive de sa présence. Sa présence. C'est là que le bât blesse. Parce qu'au niveau spirituel, on voit au niveau de l'esprit, partant du principe que c'est cette faculté qui nous permet d'appréhender Dieu, hein, de comprendre, de découvrir, de comprendre qui Dieu est, ou alors d'appréhender ce monde spirituel en rébellion contre Dieu, au travers de toutes sortes de pratiques, hein, de spiritisme, de magie, de sorcellerie. Moi, je me souviens avoir discuté avec des gens, mais c'était juste effrayant. Hein. Puis en Afrique, je sais que là, il y a quand même des endroits où ça y va. Il y a aussi Haïti avec le voodoo. Et on sait que c'est un monde réel, hein, qui intervient lorsqu'on s'ouvre à ce monde-là. Donc, le problème, c'est que privé de la présence de Dieu, privé de la gloire, c'est-à-dire du poids que Dieu peut mettre dans nos vies, eh bien, on va partir dans toutes les directions, sauf dans la bonne. On va pécher, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement désastreux pour l'être humain, hein, d'être privé de la gloire de Dieu. Alors, il y a une image qui symbolise un petit peu cet état de fait. On peut montrer la prochaine. Je ne sais pas si vous avez connu ce temps-là. Moi, je l'ai connu. C'est une image qui symbolise cette absence. C'est une radio de l'ancienne génération. Alors, les plus anciens parmi nous ont vu ça, ont peut-être tenu dans les mains. Et celle-ci était composée d'un boîtier de composants électriques, vous voyez, assez sommaires quand même, hein, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, et d'une antenne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je vois encore mon père, il avait acheté une radio portable et il essayait de capter une émission radiophonique et il se déplaçait dans tout l'appartement pour essayer de capter le bon endroit pour recevoir cette émission. Alors, il devait sortir l'antenne, puis je le regardais, moi j'étais enfant à ce moment-là, puis je le regardais, je me disais, tiens, il doit sortir ce truc-là, cette espèce de bâton, cette tige, et puis ça marche. C'est marrant, parce que ça grésillait, on entendait mal, ça coupait, etc. Mais dès qu'il sortait son antenne, hop, ça marchait. Et le problème, c'est que notre antenne à nous, elle est HS, elle est hors service. Il est là, mais dans le boîtier, elle est pas utilisable. Et on voit que l'homme, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, dans le temps, tente de capter la présence du divin. Il se déplace de lieu en lieu, il se déplace de religion en religion, de méthode en méthode, pour essayer d'entrer en relation avec une entité supérieure. Quand on voit là tout ce qui est fait par l'être humain pour essayer de saisir la présence de Dieu. Alors si ça marche, c'est vrai pour le monde spirituel en rébellion contre Dieu, hein, donc ce monde du spiritisme et autres, ça ne marche pas avec Dieu. C'est lui qui pose les conditions, parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas à nous de dire comment nous allons le trouver et par quels moyens. Dieu, dans son amour, va nous donner un moyen de le rencontrer. Donc, on n'est plus des êtres tout entiers, comme le dit Paul. Hein, corps, âme, esprit. Et on doit retrouver cette unité. Et on peut le faire uniquement par la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'alternative. Vous pouvez chercher dans tout ce que vous voudrez, il n'y a pas d'alternative à la nouvelle naissance. Et c'est ce qui se produit quand quelqu'un, comme moi, un jour, on entend la parole, on entend un témoignage, on se dit, ouais, ça, j'ai jamais entendu, en tout cas pas avec mes potes de natation, avec mes potes de groupe de hard rock, avec ceci. Non, j'ai jamais entendu ça. Hein. Et tout d'un coup, ces paroles commencent de faire effet. La fille avec laquelle je discutais pour la première fois de ma vie de choses spirituelles, d'abord je me disais, où est-ce qu'elle a entendu ça? J'espère qu'elle n'est pas dans une secte. Mais c'est intéressant parce que personne d'autre ne m'en a parlé. Ni mes parents, ni mes amis, ni mes copains, etc. Et là, à un moment donné, ça c'est un peu de l'ordre de l'inexplicable, on se sent convaincu de péché. Alors, ce n'est pas un mot qui veut dire grand-chose à ce moment-là, mais le sentiment intérieur, votre cœur vous dit, « Waouh, mon gars, là, tu es à côté de tes chaussettes, ça ne joue pas. Il y a quelque chose qui te manque. » Et je me souviens, pendant la semaine, je repassais ces paroles, des paroles hyper simples. Mais comme je ne les avais jamais entendues, pour moi, c'était « Waouh !» C'était incroyable. Et ça me travaillait jusqu'au moment où je me suis repenti. Là non plus, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai fait une simple prière à Dieu. J'ai dit, écoute, si tu existes, alors vas-y, change ma vie. Toi, ces jeunes-là qui parlent de toi, ils ont l'air d'être vraiment au courant. Moi, pas du tout. Mon antenne, elle n'est pas dehors. Et puis, pouf, quelque chose se passe. Et c'est un miracle. L'Esprit de Dieu retrouve cette liberté en nous de se révéler. Il, en guillemets, ressuscite en fait ou redonne la capacité à notre esprit de saisir, de comprendre, d'entrer en relation avec Dieu, notre Créateur, notre Père, et il refait de nous des êtres tout entiers. Corps, âme, esprit. Waouh ! Et là, ça peut commencer. Là, ça peut vraiment recommencer. Et là, la parole de Dieu nous parle de régénération. C'est le mot « anagenao », hein, en grec, produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, faire renaître, avoir son esprit changé par une nouvelle vie. Et Dieu permet cela. Dès l'instant où, avec humilité, je me présente devant lui et je me repens de mon état, il dit « Waouh, voilà un terrain favorable ». Et le Saint-Esprit, « Wam !» il arrive et il commence de faire une œuvre surnaturelle. Et la régénération n'est possible que si je meurs à moi-même. C'est-à-dire que je diminue et qu'il croisse. Hein. Alors, c'est un chemin douloureux. Moi, je me souviens au début, waouh, il y a des choses que je n'étais pas prêt à abandonner si vite. Hein. Je me dis, oui, mais ça, écoute, Seigneur, quand même, ça, tu permets ou bien, non? Je me souviens toujours, il y avait un problème parce que quand j'ai arrêté la natation, j'ai commencé de fumer, ben ouais, comme les copains, tout ça. Et puis, combien de paquets j'ai pas... j'ai tordu le cou, on peut dire. Hein, hop, je le jetais. Puis la semaine suivante, hop, c'était reparti. Et puis tout d'un coup, je me dis... Et là, j'étais dans ma chambre un jour à la vieille ville. J'ai dit, je veux changer. Je veux arrêter de fumer la cigarette et puis je veux fumer la pipe. Hein, c'est encore... Alors, j'étais assis là dans mon fauteuil, dans ma chambre, et puis je lisais la Bible. Puis tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es en train de te polluer, ça te pique dans les yeux, c'est pas bon dans la bouche, puis tu lis la Bible. J'ai dit, là, il faut mourir à la pipe. Ben voilà, j'ai posé ma pipe, je n'ai plus jamais reprise, c'était bon. Donc c'est une œuvre surnaturelle, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ça. Et l'apôtre Paul a vécu une expérience assez incroyable, parce que s'il y avait une sommité à l'époque dans le peuple d'Israël, c'est bien Saul de Tarse, n'est-ce pas? Quand on voit son pédigré, c'était un petit peu le summum. Je ne sais pas s'il était à 240, lui, au niveau QI. Mais en tout cas, c'était un gars. Hein. Et qu'est-ce que Saul de Tarse va dire au moment où le Saint-Esprit commence de faire son œuvre, où Jésus, bien sûr, lui apparaît? Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, à partir de ce moment-là, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme de la boue. Et le mot grec, utilisé pour boue, je ne sais pas quelle édition vous avez quand vous lisez la Bible, c'est skubalon. Skubalon qui signifie comme un déchet, comme de l'excrément des animaux, les rebuts, la lie des choses indignes, sans valeur, détestables, etc. etc. Donc ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas juste, oui, ben écoute, je mets un petit peu de côté ma connaissance, mon savoir, ma sagesse, pour te laisser un petit peu. Non, tout d'un coup, Saul de Tarse, il réalise, il devient Paul, il dit, mais tout ça. Alors bien sûr qu'il va après pouvoir utiliser toute cette connaissance qu'il avait, évidemment, hein, pour rentrer en contact avec, avec tous ces gens qu'il a rencontrés, mais l'essentiel, c'est Jésus. Il regarde tout le reste comme de la boue. Skubalon, hein, allez, de côté. Et déjà, en Ézéchiel, Dieu avait fait une promesse incroyable, 600 ans avant Jésus. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous... » Vous voyez le désir de Dieu, déjà 600 ans avant que les choses se passent, 650 ans peut-être. Dieu avait envie, un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Et je vous donnerai un cœur de chair. Mais vous imaginez l'intention de Dieu à ce moment-là déjà, bien avant le temps, ça bouillonnait dans son cœur. Il attendait plus que le moment que. Hein. Et c'est là que l'analogie avec un bébé prend tout son sens. Si je suis prêt à investir tant de temps, d'énergie, de moyens pour mon bébé, pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, passer par les étapes de croissance et atteindre, parce que ça c'est le but de tous les parents, atteindre l'âge adulte dans un bon état, c'est parfait. Qui n'a pas rêvé en tant que parent, quand il voyait son bébé, de se dire ouais, « il va grandir, il va être bon ». Alors bien sûr, hein, je comprends pour les parents qui ont eu des enfants très malades ou handicapés, on se comprend, hein, mais globalement c'est quand même ça, c'est se dire « voilà, moi je vais tout faire pour que mon bébé atteigne l'âge adulte, qu'il puisse faire un bon apprentissage, des études, qu'il puisse réussir dans la vie, etc. etc. » Donc, je pense qu'il en va de même dans ce que la Bible nous dit en parlant de l'homme nouveau, de l'homme spirituel ou de l'homme intérieur. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et le terme qui est utilisé pour nouvelle création, c'est le mot ktisis en grec. C'est l'action de fonder, d'établir, de construire, action de créer. Et ça trouve, ça c'est intéressant, vous verrez que dans les soirées qu'on aura, on va aussi découvrir un petit peu ces termes. Moi j'ai fait l'école primaire, donc vous voyez, le quotient intellectuel, ce n'est pas très élevé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à notre place. Il y a des gens très intelligents qui ont sorti des ouvrages d'une qualité remarquable. Et je n'ai jamais appris le grec, je n'ai jamais appris l'hébreu, mais j'ai appris d'eux. C'est les dons que ces gens ont reçus, et moi j'ai pu bénéficier de ces dons. Alors à un moment donné, je me suis dit, oui, mais ce mot, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il dit ça? Et là, vous allez chercher dans le grec, vous allez chercher dans l'hébreu, et vous découvrez tout d'un coup le sens étymologique des mots. Et tout d'un coup, ça vous ouvre vraiment à un monde nouveau. Donc, le mot ktisis trouve son origine étymologique dans le mot ktizo. Et ktizo signifie rendre habitable. Vous voyez comme c'est intéressant? Rendre habitable, peupler un lieu, une région, une vie. Aux yeux de Dieu, c'est une vie. Jésus dira en Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Et qu'est-ce qui va se passer? Nous viendrons à lui. Je redeviens un être habitable. Je redeviens un être habitable et nous ferons notre demeure chez lui. Mais quand on réalise ça, on se dit, mais c'est pas possible, Dieu vient dans mon humble demeure, dans ma cabane, dans ma cahute. Il le fait, effectivement. Hein. Donc il est de mon devoir d'en prendre soin, de le nourrir cet homme nouveau, de le cultiver, de le protéger comme un bébé. Et dans 2 Pierre, on peut mettre la dia suivant, dans 2 Pierre 1,5, il dit « Faites tous vos efforts, tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance globale. » Et dans 2 Pierre 3,18, il dit « mais grandissez, mais croissez hein, ». C'est le mot « auxano », croître, augmenter, s'accroître, devenir plus grand, pousser, s'élever. Hein, ça donne vraiment une bonne image. « Dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et on pourrait encore citer tellement d'autres passages qui nous encouragent à aller de l'avant. « Efforcez-vous ». Recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Puis on pourrait continuer. Plein d'exhortations qui nous disent, mais hey, est-ce que tu es conscient que quelque chose d'incroyable s'est produit en toi et que cette chose incroyable est appelée maintenant à croître? Alors c'est vrai que l'apôtre Paul, il s'est désolé à plusieurs reprises parce qu'il avait tellement envie de donner du solide aux chrétiens qui étaient nés de nouveau et qui commençaient de grandir et qui commençaient de découvrir des choses. Et puis malheureusement, il écrit en Hébreux 5,12, « Mais vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait. » Ah, maintenant, il faut que je boive un peu. Ça, c'est le médecin, 1,5 litre par jour. Mais ce n'est pas du lait, hein. Je vous dirai pas ce que c'est. Donc, vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. D'une nourriture solide. Il était temps pour eux de passer de la lolette au beefsteak. C'était le moment. Oui, allô? Ah, ça c'est le problème aujourd'hui dans les églises. Hein. Mais est-ce qu'ils le voulaient vraiment? Passer de la lolette au beefsteak, est-ce qu'il le voulait vraiment? Parce que, dans le fond, il y a quand même quelque chose d'agréable hein, de rester dans l'état du bébé ou du petit enfant, n'est-ce pas? On a pris l'habitude d'être servi, d'être nourri, d'être blanchi. Pourquoi faire l'effort de sortir de cet état-là? On s'occupe de nous. Et moi, j'ai remarqué souvent dans les églises, hein, j'étais quand même pasteur pendant plus de 40 ans, J'ai vu des gens qui ils se contentaient d'être nés de nouveau, c'est tout. Puis on avait l'impression qu'ils stagnaient dans leur berceau, et puis de temps en temps, on allait leur donner un petit peu de lait, et puis on essayait de leur permettre quand même de survivre. Mais ce n'était pas le but. Le but aussi en tant que pasteur, c'est de dire « Waouh, tu as fait des progrès incroyables cette année. Tu en étais au lait, et puis maintenant, c'est déjà du bircher, hein, puis après, il viendra... » voilà. Et tu arriveras à un moment donné à quelque chose de vraiment consistant. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des chercheurs d'or aux États-Unis. On sait tous que à la moitié du 19e siècle, on a trouvé, en Californie notamment, des gisements d'or. Et étonnamment, alors je ne sais pas, voilà, c'est chez un Suisse, sur le terrain d'un Suisse qui s'appelait Souterre. Et oui, on a découvert des paillettes d'or, on a découvert... Voilà. Et puis, ça a provoqué un élan incroyable. On estime à plus de 300 000 personnes qui ont débarqué là-bas pour essayer de trouver de l'or, pour devenir riches, pour se remplir les poches. Et ça marchait. Au début, c'était incroyable parce que dans certains endroits, on les trouvait comme ça, à ras de la terre. On se baissait à peine et hop, on remplissait son sac, on était millionnaire. C'était juste incroyable et ça a duré 8 ans. 8 ans. Et pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté au bout d'un moment? Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté? Si, il y avait beaucoup encore, mais il fallait creuser de plus en plus profond. Il fallait creuser de plus en plus profond. Et ça, c'est embêtant. Hein. Quand on les retrouvait à ras de la terre, on avait qu'à se baisser pour se remplir les poches. Et tout d'un coup, maintenant, il faut toute la journée pelleter avec la pioche, faire des trous dans tous les coins. Il y avait de l'or, mais ils ont arrêté. Et parfois, je me dis, c'est un petit peu la même chose en tant que chrétien. Hein. Au début, on découvre des pépites, on découvre de l'or en barre, et puis on est heureux, on vit vraiment une nouvelle dimension dans notre existence. Voilà, moi je me souviens au début, j'étais rempli d'amour, j'avais envie de courir dans la rue, puis d'embrasser les gens, puis dire « Jésus est vivant !» Des trucs comme ça, bon, on l'a fait avec les drogués, mais bon, ils étaient un peu... bon. Mais on en a quand même amené quelques-uns. Donc, ça, c'est incroyable de penser qu'on peut tout d'un coup s'arrêter dans nos recherches. On peut s'arrêter de grandir parce qu'on fait un mauvais choix. Hein ? Non, les chercheurs d'or, ils étaient beaux, hein. Regarde la quantité qu'ils en ont là-dedans. Il y a une parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui nous dit quoi ? En Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Ah, tiens. Est-ce que vous avez une pelle et une pioche à la maison ? Dans votre attirail de chrétien. Je vous donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Et moi, je peux vous dire, comme je l'ai dit avant, hein, moi j'étais, voilà, l'école, c'était vraiment pas mon truc et tout, école primaire de base. Hein, mais à partir du moment où j'ai commencé de piocher, de chercher, d'aller en profondeur, mais, et ça fait 50 ans que ça tient, donc c'est pas un hasard, hein, c'est pas parce que je suis devenu plus intelligent, c'est parce que Dieu m'enrichit. C'est parce que Dieu m'a donné des choses qui me dépassaient intellectuellement jusque-là. Hein. Mais étant né de nouveau, eh ben ça a marché. Donc il est temps, je pense, de prendre la pelle et la pioche, n'est-il pas ? Ce d'autant plus, et là je vais terminer, que nous devons nous rappeler une chose, et pas des moindres. Jésus n'a pas seulement donné sa vie pour que nous naissions de nouveau, mais pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme fait. Et ça, il faut le prendre sérieusement en compte. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse naître de nouveau. Mais dans sa vision, il te voit grandir, 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 croître, jusqu'à atteindre la stature de la femme ou de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pas rien. Il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Il nous offre aussi une plénitude. C'est pas un verre à moitié plein. C'est pas juste un ravalement de façade. Éphésiens 3, 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la moitié de votre vie chrétienne. Vous êtes content, hein, la moitié, c'est déjà pas mal, mais un tiers peut-être, trois quarts éventuellement. Mais Jésus a donné sa vie pour que vous atteigniez la plénitude à votre niveau. Je pense qu'on est tous différents, mais à un moment donné, je peux atteindre cette plénitude à mon niveau. Je n'ai pas besoin de me comparer à Jean-François, par exemple, un philosophe. Moi, je suis perdu dans la philosophie, j'ai lu son livre, mais j'ai dû m'accrocher. Mais c'est extraordinaire. Parce que ces plénitudes, à un moment donné, font la richesse d'une église. Si on est tous des bébés dans une église, ça donne quoi ? Aïe, aïe, aïe. Hein ? Mais si on grandit dans le Seigneur, si on tend vers cette plénitude, et il est dit « efforcez-vous », donc on retrouve cette image de la pelle et de la pioche. Efforcez-vous. Hein ? On ne va pas le faire à votre place. C'est vous qui faites un choix à un moment donné. Amen ? Donc se limiter au minimum... Après avoir, Hébreux 2, 3, hérité d'un si grand salut. Hein. Je ne sais pas si on réalise que quelque chose d'éternel a commencé à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est la vie éternelle, ce n'est pas juste une étape de vie, ce n'est pas juste améliorer un petit peu le quotidien. Quelque chose d'éternel a commencé qui ne se terminera jamais. Et la prochaine étape, c'est d'être avec lui pour toujours. Je vous ai préparé une demeure dans la maison de mon Père, etc. Hein? Donc quand on se projette là-dedans avec ces vérités spirituelles, notre vie ne peut être qu'un tout bien entier de nouveau, corps, âme, esprit. Et on retrouve un équilibre de vie quand on voit tous ces déséquilibres dans notre monde autour de nous, mais c'est l'horreur. Tous ces gens qui dysfonctionnent, tous ces gens qui ne savent plus où ils en sont. Mais c'est normal. Heureusement, je dirais, parce que si ça pouvait bien aller, parce que un tel ou un tel dit ceci, ben on se dit, bon, on en a trouvé. Hein, c'est... Non. Donc, se limiter au minimum après avoir hérité d'un si grand salut est une offense à Dieu. J'aimerais que vous l'entendiez ce matin. Je ne le dis pas comme ça pour vous gronder, pour vous dire « Ah, c'est pas bien », non. C'est une offense à Dieu et à l'œuvre parfaite de Christ pour chacune et chacun d'entre nous. Ça s'appelle de la négligence. Ça s'appelle de l'indifférence. Et ce sont deux péchés. On peut essayer de passer à côté, on peut essayer de renverser la chose. La réalité, c'est que si volontairement je décide d'en rester là où j'en suis dans ma vie chrétienne, ben pour moi, c'est vraiment une négligence ou de l'indifférence. Alors je termine. J'espère que vous avez compris cette tentative d'analogie de la vie d'un bébé, appelé bien sûr à atteindre cette stature d'adulte, et la vie chrétienne. Aucune chance d'y parvenir si le bébé, tout au long de sa croissance, ne fait l'objet de soins attentifs. Vous avez laissé votre bébé pendant une semaine sans manger, sans boire, sans le changer? Jamais! À moins d'être têteux un peu, hein, j'entends, ouais, à moins d'avoir des problèmes psychiques graves. Donc c'est une réalité humaine, physique. Hein. Et cette vie nouvelle en Christ nécessite aussi tous les soins possibles et imaginables. Elle le vaut bien, je l'ai déjà dit, c'est une vie éternelle qui a commencé de prendre en nous et qui est en train de nous entraîner dans quelque chose qui dépasse mais tout ce qu'on peut imaginer. Le jour où on sera là-haut, on dira « Waouh, waouh, waouh !» Mais on sera ébahi le restant de nos jours parce que ça sera tellement incroyable. Hein. Donc, sans m'en rendre compte, je peux être négligent. Hein. Je n'ai plus la même attention. Je ne m'applique plus comme au début. Au début, je me souviens, j'allais à l'église, je participais aux rencontres, j'avais de la joie de louer le Seigneur. Puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est descendu de quelques crans. Hein. Et puis, on ne sait pas où s'arrête la chute. Hein. Donc, sans m'en rendre compte, je néglige. Sans m'en rendre compte, peut-être que... c'est plus comme au début. Peut-être que vous êtes dans cette phase-là. Hein, ça, c'est possible. Paul dit dans Galates 5:7, « Mais vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Qui ? Hein ? Alors, peut-être que parmi nous, il y en a des qui courent en ce moment. Waouh, c'est super, ça marche, hein, vous êtes en pleine course. Alors je vous dis, continuez, hein, ne vous arrêtez surtout pas. Mais il y a peut-être ceux et celles qui sont lassés et fatigués. Et je peux vous dire aussi, honnêtement, en tant que pasteur, j'ai vu des gens qui étaient fatigués et lassés. Hein. Il y a peut-être des circonstances atténuantes. Tout d'un coup, dans la vie, on peut être confronté à des situations, des expériences qui font tellement mal que on régresse, et on ne sait pas non plus trop pourquoi. Et peut-être qu'il y a des situations qui vous ont conduit à vous fatiguer, à vous lasser. Il y a aussi un mot, là, anacopto. Hein, c'est qu'est-ce qui vous a empêché, qu'est-ce qui a interrompu, qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui a retenu, qui vous a arrêté. Ce petit mot, c'est quoi le problème, hein? Et peut-être que tu en es conscient ce matin, peut-être que ça fait un moment que tu te dis, waouh, ouais, ma vie chrétienne, c'était magnifique au départ, mais là maintenant ça devient de plus en plus dur. Mais tu ne veux pas rester bloqué dans cette impasse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui s'est produit à un moment donné et tu as envie de redécouvrir cette réalité-là. Alors, il y a une chose que le Seigneur, parce que Dieu nous donne des moyens, hein. Quand on est dans une situation délicate, il a toujours un moyen. Il nous dit, fais ça, et tu verras, ça va marcher. Et il y a le mot repentance qui existe dans l'Écriture. Et ça, c'est un mot, voilà, repentance. Ouais, je suis chrétien, maintenant c'est bon, je l'ai fait une fois, ça suffit. Ben non, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer chaque jour. C'est un don de Dieu, c'est le moyen que Dieu nous donne. Il dit, si tu t'es trompé, si tu t'es fatigué, lassé, si tu n'as plus envie d'avancer, tu peux rester dans cet état. Mais tu peux aussi te repentir. Et tout d'un coup, on découvre que c'est vraiment une richesse, la repentance. C'est le moyen par lequel les choses vont changer. La repentance. Dieu nous donne ce moyen. Changer d'état d'esprit. Metanoeo. Metanoeo. Je peux changer. Alors, hein, Alors plutôt que de se construire un petit mur des lamentations et puis dire ouais, c'est à cause de ci, ouais, c'est à cause de lui, ouais, c'est l'Église. Non, 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 je ne crois pas. Osons regarder le problème en face, n'ayons crainte de l'affronter avec le Saint-Esprit. Et une attitude de repentance permet à l'Esprit Saint d'accomplir quelque chose que nous ne sommes plus capables de faire. C'est lui qui le fait. Mais il trouve un terrain favorable. Si je ne me repens pas, il ne va pas m'obliger de me repentir. Il ne va pas me prendre par le cou en disant « Madame, tu te repens, allez !» Non. Il dit hey, « Hé, oh, repens-toi. Reconnais ton état. Crie à Dieu, hein, d'une manière ou d'une autre. » 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir vivre régulièrement dans notre vie chrétienne. Et à ce moment-là, et je termine par ce verset, vous pourrez expérimenter cette parole de Dieu qui vous concerne peut-être ce matin, Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons être tellement reconnaissants ce matin pour le miracle qui a lieu un jour dans notre vie. À aucun instant, Seigneur, on n'aurait pensé que ce Dieu créateur des cieux et de la terre, ce Dieu omnipotent, omniscient, est capable de venir à notre rencontre, de se mettre à notre niveau pour se révéler, pour nous faire naître de nouveau. Seigneur, j'aimerais te remercier ce matin de ce que tu as fait de moi un être tout entier. Alors, tout n'est pas parfait, mais il y a un processus qui a commencé en moi, dans chacune de nos vies, un processus éternel. Et dans ce processus, tu nous apprends à vivre selon ta volonté. Tu nous corriges, tu nous pardonnes, tu effaces nos péchés, tu reprends, Seigneur, avec nous lorsque nous sommes tombés. Seigneur, tu es un Dieu de bonté, de grâce et d'amour. Et je te prie pour chacune et chacun d'entre nous, afin que nous puissions investir tout ce potentiel pour aller à la rencontre de ces richesses enfouies, de ces trésors cachés. Seigneur, bénis-nous, nous en avons besoin et nous voulons continuer de marcher dans tes voies, de courir par moments aussi pour découvrir encore ce que tu as en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Que ta grâce et ta paix demeurent sur nous maintenant. Amen. Amen.